causa do cheirinho Carolina. Todo mundo foi dançar Carolina.
On espère avoir une certaine qualité dans ce petit feuilleton. Hein? Mais elles ont participé pour faire les seconds rôles, elles ont participé pour le maquillage, elles ont participé pour plein de choses, pour produire l'alimentation pour l'équipe. Elles ont participé à faire des... Comment on dit, ici, le script, les continuistes, on dit, non,
pour le script, ici.
Voilà. Et c'était vraiment quelque chose qui, je pense, a beaucoup plu à tout le monde. Hein.
Eu te adivinhava e te cobiçava e te arrematava em leilão. Te ferrava a boca, morena, se eu fosse o teu patrão. Ai, eu te cuidava como uma escrava e eu não te dava perdão. Te rasgava a roupa, morena, se eu fosse o teu patrão. Eu te encarcerava, te acorrentava, te atava ao pé do fogão. Não te dava sopa, morena, se eu fosse o teu patrão. Eu te encurralava, te dominava, te violava no chão. Te deixava rota, morena, se eu fosse o teu patrão. Quando tu quebrava e tu desmontava e tu não prestava mais não, eu comprava outra, morena, se eu fosse o teu patrão.
Eu te pagava direito, sou tu de cidadão. Ponho uma medalha em teu peito, se eu fosse o teu patrão. O tempo passava sereno e sem reclamação. Tu nem reparava, morena, na tua maldição. E tu só pegava veneno, beijava minha mão. Olha o que brotava, morena, olha o do teu irmão. Teu filho pegava gangrena, raiva, peste e sessão. Qual era na tua, morena, e tu não cheiava não. Eu te dava café pequeno e manteiga no pão. Depois te apagava, morena, como se apaga o pão. Eu sempre te dava esperança com um futuro bom. Tu me idolatrava, criança, se eu fosse o teu patrão.
Mas se tu cuspisse no prato onde comeu feijão, eu fechava o teu sindicato, se eu fosse o teu patrão.
Elba Ramalho et Chico Buarque dans une chanson un peu satirique, « Si j'étais ton patron ». Alors voilà, Gigi 1988, eh bien, nous allons maintenant donner la parole à Bethagne, le SOS Corpo qui est venu nous rencontrer en septembre 1990. Bethagne a commencé déjà à participer à des conférences de l'OMS où elle rencontrait d'autres femmes du tiers-monde pour échanger toujours et en particulier sur la question de la contraception. Mais à ce moment-là, je lui ai posé une question qui m'intéressait beaucoup parce que je savais que Bethagne avait été parmi les femmes élues comme représentante des femmes pour réaliser la nouvelle constitution qui a commencé à être rédigée en 1986. Et il y avait eu une demande particulière pour que les femmes viennent travailler pour inscrire des articles concernant la condition de la femme dans la nouvelle constitution. Et Bethagne, en tant que membre du SOS Corpo, a été une des femmes élues pour participer à ces travaux. Alors, en 1988, les travaux se sont finis. 1989, Bethagne est à Genève et je lui demande bien sûr qu'est-ce que les femmes ont réussi à mettre dans cette constitution qui leur a, et quels droits vont-elles, sur lesquelles vont-elles pouvoir s'appuyer désormais dans la Constitution?
On a beaucoup travaillé pour la Constitution, parce que pour nous, ça a été très important, pour nous et pour la société en général. Une nouvelle Constitution, ça a été une demande depuis les années 70, parce que pendant le régime militaire, ils ont beaucoup changé la Constitution, et ça, on ne voulait plus cette Constitution-là. Et depuis les années 70, tout le monde disait que pour avoir un nouveau régime démocratique, il fallait d'abord une nouvelle constitution. Alors ça a été une demande de la société brésilienne depuis plusieurs années.
Alors quelles sont, tu penses, les choses les plus importantes que les femmes brésiliennes ont gagnées dans cette constituante alors?
Écoute,
constitution, je crois qu'on dit.
Par rapport aux femmes travailleuses, par exemple. Je pense qu'il y a une question très importante. Tu sais qu'il y en a une quantité de femmes qui sont des bonnes, qui s'appellent empregadas domésticas en portugais, qui sont les femmes qui travaillent chez
les employés de maison.
Les employés de maison. Et elles n'étaient pas reconnues comme une catégorie professionnelle. Elles avaient quelques droits, mais elles ont réussi à être reconnues comme catégorie professionnelle. Et maintenant, elles ont les droits comme toutes les autres catégories professionnelles. Alors, ça, pour nous, était très, très important. Et elles ont été aussi une catégorie très bien organisée pour lutter là pour la Constitution. Sur les femmes ruraux, c'était très important parce qu'elles ont réussi à avoir le droit à la propriété de la terre. Parce qu'avant, elles n'avaient pas. Ça a été seulement à travers du mari ou du père. Maintenant, elle a comme pour elle-même le droit à la propriété de la terre. La terre dans la zone rurale et la terre urbaine aussi. Et aussi les 120 jours de congé maternité pour toutes les femmes travailleuses.
Le Brésil est plus progressiste que la Suisse, donc. Hein?
Oui, ça, j'ai entendu qu'ici, c'était pas comme ça. J'étais surprise.
C'est sûrement pas la seule chose qui te surprendrait sur les droits de la femme en Suisse.
Parce qu'on pense que le pays développé, tu vois. Moi, j'étais vraiment étonnée par rapport à ces choses-là.
Horas da noite, na rua deserta, a preta mercando, parece um lamento. Costa tem acarajé. Oh, acarajé cor, oh, lalaiu, vem benzer. Tá quentinho. Todo mundo gosta de acarajé. Todo mundo gosta de acarajé.
O trabalho que dá pra fazer, yeah. O trabalho que dá pra fazer, yeah.
Todo mundo gosta de acarajé. Todo mundo gosta de acarajé.
Todo mundo gosta de abará. Todo
saber o trabalho que dá. Ninguém quer saber o trabalho que dá.
Todo mundo gosta de abará. Todo mundo gosta de abará.
Todo mundo gosta de acarajé. Todo mundo gosta de acarajé.
O trabalho que dá pra fazer, yeah. O trabalho que dá pra fazer, yeah.
Todo mundo gosta de acarajé. Todo mundo gosta de acarajé.
Todo mundo gosta de abará. Todo mundo gosta de abará.
Ninguém quer saber o trabalho que dá. Ninguém quer saber o trabalho que dá.
Todo mundo gosta de abará. Todo mundo gosta de abará.
Todo mundo gosta de acarajé. Deserta. Quanto mais distante, mais triste o lamento.
C'est Sonia qui a pu venir à Genève et qui est venue pour une rencontre à l'OMS qui parlait de contraception. C'est pas la première fois que les femmes du SOS Corpo voyagent dans le monde, et ces deux dernières années en particulier, elles ont voyagé aux Philippines, à Bangkok, au Pérou, enfin dans plein d'endroits. Et cela m'intriguait de savoir si ça signifiait un grand changement par rapport aux activités du SOS. Alors, c'est ce que j'ai demandé à Sonia.
Moi, si je me souviens, le SOS Corpo s'est créé à partir d'un groupe de femmes féministes militantes, et aujourd'hui, vous voyagez de par le monde, et comme par hasard, ça fait 10 ans que vous existez. Est-ce que c'est signe d'une grande évolution dans le SOS Corpo? Qu'est-ce que tu peux nous faire un petit peu un cheminement comme ça, une explication des étapes qu'a franchi le SOS? Oui.
Écoute, moi, je pense qu'il y a là de processus que se mettent ensemble, on peut, dans des niveaux différents. D'un côté, il y a l'évolution de l'organisation elle-même. Ça veut dire, comment tu commences avec un petit groupe de femmes qui veulent faire de... comment tu commences avec un petit groupe de femmes, avec de l'inspiration féministe, de faire l'auto-examen gynécologique il y a 10 ans. Et puis, dans 10 ans après, on est une institution. On devient une institution, c'est pas une bureaucratie, mais une institution avec des règles, des normes, avec des programmes différents, et qui devient, cette institution, on prend des références pour les mouvements de femmes, pas simplement pour les mouvements de femmes au niveau local et un peu national au Brésil, mais aussi on prend des références pour les institutions du monde, que de quelque façon sont entrées d'introduire la question de la femme ou la question du genre dans ces programmes. Donc moi, je pense que c'est intéressant de regarder un peu ça, parce que c'est un double processus qui s'est en même temps particulier de l'organisation et qui s'est relié à des changements qui sont planétaires, de quelque façon.
Alors, explique-nous un tout petit peu. Au début, donc, vous êtes partie avec l'idée d'un travail de base. D'abord, c'était sur vous en tant que femme qui avait besoin de se retrouver, de discuter, comme tu dis, par exemple, de pratiquer l'auto-examen. Et puis ensuite, vous êtes liée à des groupes de femmes de milieux plus défavorisés. Donc, il y avait un travail de base. Aujourd'hui, est-ce que ça existe toujours? Dans le sens que le fait de devenir une institution qui a y compris un point de repère au niveau international... Ça vous a fait abandonner ce travail de base, ou est-ce que vous avez ajouté petit à petit des tâches nouvelles au groupe?
Ah non, c'est plutôt comme tu dis, ça veut dire que ça, c'était pas un saut dans l'air. Hein. Donc, petit groupe de femmes qui faisaient du travail de base pour avoir des repérages internationaux. Depuis le début de son existence, le SOS Corpo a fait du travail de base, ça veut dire... On a toujours, même quand on était les groupes de réflexion, on avait toujours dans l'esprit l'idée de transférer ce qu'on a
qu'on expérimentait, c'est qu'on apprenait chez nous, avec nous pour les autres femmes, parce qu'on vit dans une circonstance d'inégalité sociale, inégalité économique à cette époque-là, de limitations au point de vue politique. Donc ça, c'était dedans le projet initial. Mais dès le début, on a fait aussi de la recherche et on produisait aussi des matériaux. Ça veut dire qu'on produisait de librettes, on a fait même en audiovisuel avant que les SOS existaient. Donc l'idée de production de matériel didactique, on sent que la recherche, elle était toujours là. Et puis ça s'est ajouté petit à petit, toujours plus de gens, plus de programmes. Les choses deviennent plus complexes dans l'institution, dans la société. Les niveaux de demande que la société brésilienne nous a posés a aussi impulsionné et stimulé des changements. Parce qu'à partir d'un certain moment, au milieu de la décade de 80, on se vit dans la circonstance de pouvoir influencer les politiques publiques de santé. Donc, ça nous met devant un interlocuteur énorme, que c'est l'État brésilien. Ça veut dire que ça nous pose des révisions. Il nous oblige un peu à une situation beaucoup plus professionnelle.
Donc en fait, à partir de ce travail de base avec les groupes de femmes des milieux défavorisés et parmi les femmes de la classe moyenne, effectivement, ça a très vite dépassé un travail militant strict entre les femmes. Vous vous êtes rendu compte que vous pouviez avoir, comme tu dis, une influence. Ça ne doit pas être un passage très facile à faire, ça, hein, quand on se dit, mais maintenant, il faut qu'on assume le fait qu'on nous a repérés et qu'on approuve nos idées. Alors, il faut être capable de continuer d'aller plus loin et pas seulement rester dans le petit groupe.
Non, bien sûr, quand je raconte ça, hein, rétrospectivement, ça peut sembler très simple, mais ce n'est pas du tout simple. Ça veut dire, il y a tout un premier moment de passage du groupe militant de réflexion tout petit pour les premiers moments institutionnels. Ça veut dire qu'on a les premiers projets, qu'il faut être légalisé, il faut avoir un espace pour travailler. Puis, tu en as un autre moment, soi-disant, que c'est ces moments de... On travaille avec les bases, on fait les recherches, on a beaucoup d'idées au point de vue éducatif, et tout d'un coup, il vient l'État brésilien qui nous demande du renseignement pour en faire un programme de santé des femmes. C'était très... très dilemmatique au point de vue idéologique et politique. Hein. C'est que nous, on est dans le monde pour travailler avec l'État ou pas. Ça veut dire que ça posait des questions. Puis après, c'était plutôt la question de faire le passage de soi-disant des règles assez souples, assez l'idée du collectif qui résout tout.
Hein, pendant donc ça, du fonctionnement
temps,
du groupe.
Du fonctionnement interne du groupe, à passer à des formes des conduites institutionnelles qui ne pouvaient pas passer par là. On peut parce que les gens que tu finances demandent ça. Par exemple, tu ne peux pas être en train de détourner les gens qui sont en charge de l'administration, par exemple, parce que tu peux faire ça avec 100 000 dollars, mais tu ne peux pas faire ça avec 100 000 dollars à l'an. Donc, c'est comme on peut une série de crises de croissance, de maturation institutionnelle qui ne sont pas du tout faciles à dépasser.
Donc, quand tu dis là, par exemple, c'était l'étape en question, c'est de passer justement d'un fonctionnement collectif où vous réunissiez une fois par semaine, où tout le monde savait toujours tout ce que faisait tout le monde, dans les divers groupes, où vous retrouviez, vous discutiez tout le temps. Là, maintenant, la quantité de travail que vous avez ne vous permet plus du tout ce fonctionnement-là?
Non, et puis parce que ça veut dire... C'est pas possible dans une réunion d'un après-midi de dire tout ce que tout le monde est en train de faire parce qu'il y en a 10 personnes qui font des choses intenses, complexes, chacune d'elles. Donc, on a toujours de réunions collectives, mais non sur les programmes. Ça veut dire, comme il y a des programmes de travail, ça fonctionne comme des petits collectifs. Et puis, la totalité de l'institution se met ensemble pour évaluer les programmes et faire son nouveau programme de travail à chaque 6 mois.
Alors qu'avant, c'était toutes les semaines.
Oh, c'était tous les lundis, jusqu'à un moment où on s'est rendu compte que bon, cette réunion du lundi, ça ne servait à rien. C'est une espèce de... Ça avait resté dans la tradition, mais ça ne servait à plus rien parce qu'on n'avait pas le temps. Il y avait beaucoup de gens qui se sentaient coincés parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Et pourquoi être assise là, dans cette table? Et on n'arrivait pas, en fait, à se communiquer dans ces petits moments. Donc... Ça a changé déjà. On a abandonné les réunions de lundi depuis 2 ans, je crois. Et puis on s'est rendu compte qu'on les avait abandonnées Démasiadement, parce que il fallait quand même de points de repérer les expériences collectives. Donc encore là, ça s'est construit lentement.
Est-ce qu'il y a eu des réticences de la part des femmes? Bon, je crois qu'au niveau de la quantité des femmes qui travaillent dans le groupe s'est agrandi, mais pas démesurément. Aujourd'hui, vous êtes 10. Vous étiez combien au point de départ?
On a été toujours entre 8 et 10 personnes. La différence, c'est que maintenant, à part les gens, les femmes qui travaillent dans les programmes, on a 5 personnes du support administratif. Donc, ça fait 15 au tout.
Parce que tout à coup, il y a des exigences très importantes au niveau de l'administration. Vous devez gérer un budget de beaucoup d'argent maintenant.
Oui, on a commencé avec 27 000 $ en 2022. Et maintenant, si on évalue les fonds de la coopération internationale, on va vers 900 000 $ en 3 ans. C'est assez grand. Et pour gérer ça, ça veut dire il faut des gens. Et puis il faut aussi des gens pour donner les supports pour le travail des autres gens qui travaillent dans les programmes. Ça veut dire les coups de téléphone, les messages, les courriers. C'est un travail incroyable, hein. C'est pas simple du tout. Hein. Pendant beaucoup de temps, on les faisait nous-mêmes, mais ça, c'est la folie, parce que tu écris, tu mets la lettre à la boîte, et puis c'est pas comme en Europe, hein, que tu peux... ton petit truc pour savoir les poids, et puis tu le mets. C'est pas comme ça, hein. Pour aller dans la poste, ça te prend au Brésil parfois 2 heures. Hein. Donc, il faut considérer toutes ces conditions dont on travaille aussi. Hein.
Maçã foi inventada antes da polvorada, roda e do jornal. A mulher passou a ser culpada pelos deslizes do pecado original. Guardiã de todas as virtudes, santas e megeras, pecadoras e donzelas, filhas de Maria, deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas, tão belas. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, nossa mãe, abre teu colo generoso, parir, gerar, criar e provar nosso destino valoroso. São donas de casa, professoras, bailarinas, moças, operárias, prostitutas, meninas. Lá do breu das brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, nossa mãe, abre teu colo generoso, parir, gerar, criar e provar nosso destino. Prostitutas, meninas, lá do breu das brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Lá do breu das brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira.
Maria Bethânia, la mulher brasileira, la femme brésilienne. Nous sommes toujours dans Remue-Ménage spécial Marathon sur Radio Zone 93.8 et nous vous rappelons que nous comptons sur votre soutien pour que la radio des différences continue d'exister, celle qui parle par exemple des groupes de femmes au Brésil. Alors maintenant, la suite de ma conversation avec Sonia du groupe SOS Corpo à Recife. Alors revenons à ce que je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que par rapport à toute cette évolution, à la fois l'évolution dans le fonctionnement, l'évolution dans le type de travail où c'est plus simplement un travail de base avec des femmes, mais c'est aussi des confrontations avec l'institution, l'État brésilien et les relations internationales, est-ce que tout ça a amené des grands débats où certaines femmes étaient d'accord, d'autres pas, et sur quel type d'argument?
Non, à chaque nouvelle étape de ces processus, il y a des questions qui se posent. Hein? Il y a eu tout un moment très difficile de passer de la situation très maternelle, luthérienne, qui en était auparavant pour une circonstance, une nouvelle situation institutionnelle où, bon, les gens, il fallait qu'ils se reconnaissent leurs différences, leurs aptitudes, qu'elles choisissent leur lieu de travail, qu'on commence à reconnaître une chose qui c'est très difficile chez les femmes, l'idée de compétence, efficience, du savoir, ça pose des problèmes. Mais non, la discussion, on sait juste en ces moments, c'est là. Mais ça, c'est pas une discussion simplement, moi je pense au niveau de la SOS Corps, c'est simplement qu'on est arrivé là. La discussion maintenant, c'est entre bureaucratie et démocratie. Ça veut dire, dans ce processus d'institutionnalisation, jusqu'où on va pour que ça ne devienne pas bureaucratique, comment on peut avoir des mécanismes que peut faire l'institution fonctionner sans que ça se enrégèle, ça se cristallise en tant qu'un truc lourd. Donc ça, c'est un peu la discussion de fond en ces moments. Mais moi, je pense que ça, c'est la discussion du monde, c'est pas la discussion de la SOS Corp. Hein.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans un groupe de femmes. Et c'est vrai que les femmes, jusque-là, ont beaucoup de peine à assumer, par exemple, le pouvoir, hein, d'agir et d'influencer. Tant qu'on est dans un petit groupe entre nous, tout va très bien. Mais dès qu'on doit assumer le fait de diriger quelque chose, c'est autre chose. Donc c'est ça qui m'intéresse dans l'évolution du SOS, si tu veux. C'est de voir que maintenant, vous êtes confrontés à des réelles situations d'influence et de prise en charge de responsabilité.
Oui, bien sûr. Mais ça a commencé, Catherine, en 4-22. Ça, c'est drôle parce que l'évolution du SOS ne peut pas non plus être analysée en dehors de la... de tous les processus politiques brésiliens de la décade. Ça veut dire, depuis 4-22, les femmes brésiliennes qui étaient en train de bouger depuis la moitié de la décade antérieure, on était appelées à avoir un rôle plus évident, plus visible, plus effectif dans les processus de démocratisation, inclus la participation dans l'appareil d'État. Donc, on ne peut pas comprendre très bien cette évolution sans la mettre dans la circonstance brésilienne. Il faut penser qu'on a eu un Conseil national des femmes, des conseils au niveau de l'État, on a des postes de police spéciaux pour les femmes. Ça veut dire qu'il y a tout un processus d'institutionnalisation au niveau du pays lui-même. Bethânia, par exemple, a été conseillère du Conseil national pendant 5 ans, 4 ans. Donc, ça t'aimait... effectivement, dans un rapport avec les mondes institutionnels, les rapports de pouvoir, les pouvoirs dans les sphères publiques des sociétés. Hein. Et chaque rencontre comme celle-là te fait remettre, repenser beaucoup de choses.
Hein. Et c'est tout à coup, c'est vrai que les femmes ont défendu un certain nombre de droits, avec l'institution comme ennemi, si je puis dire, enfin comme obstacle. Hein. Et tout à coup, et je crois que c'est surtout flagrant dans un pays comme le Brésil ou dans le tiers-monde, ça l'est un petit peu chez nous par la création des bureaux de l'égalité, comme ça s'appelle, donc ces endroits institutionnels, où tout à coup les femmes doivent accepter d'entrer dans l'institution parce qu'enfin on accepte leurs propositions.
Hein, ça, c'est toujours, ça veut dire, ça c'est dans les cas du SOS Corp. Ça a commencé vers 4-23, hein, quand... des suggestions pour un programme national de la santé femmes.
Cristina é uma menina tão faceira, é tão faceira, é tão faceira. Eu qualquer dia vou fazer uma besteira. Uma besteira pra Cristina me amar.
Cristina é uma menina tão faceira, é tão faceira, é tão faceira. Eu qualquer dia vou fazer uma besteira pra Cristina me amar.
Menina, vem depressa aprender a namorar. Vem ver como é gostoso beijar.